parole du jour avec Claire Tiercelin.
Auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Depuis quelques mois, nous sommes sortis progressivement de la période de confinement dans laquelle nous étions entrés au mois de mars et nous craignons aujourd'hui une nouvelle vague de cette pandémie. Tout a été dit, bien sûr, sur cette période par les hommes politiques, les scientifiques, les intellectuels et tant d'autres. Pendant des mois, nous avons parlé que de ça. Et pourtant, pendant ce temps-là, il y avait sûrement dans le monde des gens qui souffraient d'autre chose, de la faim, d'autres maladies, des guerres, des privations de liberté. Mais c'était bien sûr notre actualité et nos préoccupations. Je vous livre quelques-unes de mes réflexions. Nous avons vécu une période insolite. Certains ont souffert plus que d'autres. Tous n'étaient pas logés à la même enseigne, en fonction de notre santé, de notre âge, de notre habitation, de la composition de notre famille, de nos revenus, de nos capacités à vivre une situation nouvelle et frustrante. Et pourtant, n'oublions pas, gardons en mémoire ce qui s'est passé avant nous ou ailleurs dans des périodes difficiles et douloureuses. Nous n'avons sans doute pas été les plus à plaindre. Notre génération n'a pas connu la guerre avec la peur des bombardements, avec l'exode que certains ont vécu, avec les privations alimentaires, les restrictions. Quand les soldats de la guerre de 14-18 étaient confinés, si l'on peut dire, dans les tranchées, quand ils avaient ordre de sortir, ils avaient la peur au ventre car ils savaient que leurs chances de survie étaient minimes. Sortir, c'était mourir à coup sûr. Si ces derniers mois nous avons dû faire la queue dans certains magasins, c'était juste pour des raisons sanitaires, pour éviter d'être en contact les uns avec les autres. Mais nous n'avons pas manqué de rien, comme nos parents ou grands-parents il y a seulement 70 ans. Pas de ticket de rationnement pour les produits de première nécessité, pour l'alimentation, surtout pour les habitants des villes. Dans les pays du Proche-Orient, au Liban ou ailleurs, combien de populations ont dû vivre enfermées dans des caves, de peur de bombardements, privées de nourriture? On pourrait trouver d'autres exemples de personnes confinées, pour qui la situation était ou est encore sûrement plus dramatique que la nôtre. Pendant toute cette période, j'ai vraiment compati à la situation des familles logées dans de petits appartements urbains, sans balcon, sans jardin, sans cour, avec des enfants qu'il fallait faire travailler et occuper toute la journée. Et la plupart du temps, les parents étaient là, mais occupés par le télétravail. Je n'ai pu m'empêcher aux violences familiales et conjugales amplifiées par le confinement. Combien de femmes et d'enfants ont dû recevoir des coups sans pouvoir donner l'alerte et se faire secourir? J'étais de tout cœur avec les personnes qui ont vécu un deuil de leurs proches pendant le confinement. Elles n'ont pas pu entourer leurs malades pendant leurs derniers jours. Elles n'ont pas pu être près de leur père, de leur mère, à son dernier soupir. Quelle souffrance pour les familles et pour la personne qui allait mourir et qui s'est peut-être sentie abandonnée par les siens. Et pendant toute cette période, nous avons assisté à des actes de solidarité incroyables. Tout d'abord, il faut saluer bien sûr le travail colossal des personnels soignants qui, au péril de leur vie, ont travaillé sans compter leur temps et leur force. Certains y ont laissé leur vie. Puis les associations ont réagi rapidement pour venir en aide aux personnes seules et isolées, pour les ravitailler, pour leur passer un coup de fil, pour les réconforter. Et chacun de nous s'est efforcé de faire de même, de passer un coup de fil, d'envoyer des messages, de porter les courses aux personnes de notre entourage qui en avaient besoin. Je crois qu'on n'a jamais autant communiqué que pendant cette période. Le téléphone, les SMS, les WhatsApp, les visioconférences, Zoom, Skype et autres, tout a été utilisé pour entrer en contact avec ceux qui en avaient le plus besoin. Et puis, Tous ceux qui en avaient la possibilité ont confectionné des masques et en ont donné aux hôpitaux, aux infirmières ou à leurs voisins. Du temps, nous en avions, puisque nous ne pouvions pas nous adonner à nos activités habituelles. Pour beaucoup d'entre nous, ce fut l'occasion de prendre un peu plus de temps pour notre vie spirituelle. On peut remercier notre diocèse qui a tout mis en œuvre pour nous permettre de vivre tous ensemble la période de carême, puis celle de l'après-carême. La messe de 8h20 tous les matins sur Radio Grand Ciel donnait le point de départ de notre journée de confinée. Le message quotidien de notre évêque qui arrivait souvent en fin de matinée était très attendu. Et après avoir entendu ce message, nous pouvions réciter avec lui l'Angélus, puis après Pâques, le Regina Caeli. Nous avons reçu 70 messages de notre évêque. Merci Monseigneur. Et à 15h30, quand nous récitions le chapelet en direct de Lourdes, nous savions que nous n'étions pas seuls, même si devant la grotte, deux chapelains seulement animaient la prière. Personne devant la grotte, d'habitude noire de monde. Et le dimanche, tout le monde pouvait suivre la messe du jour du Seigneur à la télévision, et ceux qui le pouvaient ont suivi la messe en direct de la cathédrale, soit sur Radio Grand Ciel, soit sur le canal de Chartres.live. On s'est vraiment tous sentis en communion avec notre évêque et tous les chrétiens du diocèse. Beaucoup de prêtres ont pris des initiatives dans leur église pour retransmettre d'une façon ou d'une autre la messe à leurs paroissiens, sur YouTube par exemple. Monsieur l'abbé Cornic, curé de Janville, m'a fait part de l'initiative qu'il a prise pour les rameaux que j'ai trouvée intéressante. Il a dit tout seul, bien sûr, mais il est allé couper des brassées de buis et il a fait savoir à ses paroissiens qu'il laisserait la porte de l'église ouverte l'après-midi et qu'il pourrait venir se servir de buis bénis en entrant par la porte de droite et en sortant par la porte de gauche. Ses paroissiens ont beaucoup apprécié. Et nous avons fait circuler ce que nous recevions, des méditations, des neuvaines, des prières. Par Catéo, nous avons été nombreux à suivre la bénédiction Urbi et Orbi du pape, son chemin de croix, et nous étions tous choqués d'avoir la place Saint-Pierre vide, elle qui est toujours noire de monde dans les grandes fêtes. Mais nous savions que nous étions des millions derrière notre télévision à vivre ensemble ces cérémonies. Et nous avons pris davantage de temps pour une prière personnelle. Certaines églises sont restées ouvertes et il y avait souvent une personne ou deux en adoration devant le Saint-Sacrement. Progressivement, beaucoup d'églises ont été ouvertes. Le dimanche après-midi, à Chartres, les prêtres étaient présents et pouvaient donner la communion. À Chartres, à la cathédrale fermée, nous avons pu découvrir avec joie qu'après Pâques, la grille était fermée, mais les portes grandes ouvertes. De l'extérieur, on pouvait voir un cierge pascal allumé qui avait été posé tout près de la porte d'entrée. Et on pouvait apercevoir au fond de la nef la lumière rouge près du tabernacle. Deux lumières phares dans le monde obscur où nous vivions. Et une belle surprise nous attendait dès le mardi de Pâques. Une banderole attachée à la grille de la cathédrale. Une lettre par feuille 21-29-7. On pouvait lire « Demeurez dans l'espérance, Christ est vraiment ressuscité ». Et j'ai su, quelques jours après, par Ingrid Barth, responsable du Bercail, que c'était les enfants du Bercail qui avaient réalisé cette banderole colorée et avec des dessins. Belle initiative et une façon de rappeler à ceux qui passaient devant la cathédrale que nous étions en période pascale et que nous croyons en Jésus ressuscité. Et le 14 mai, la cathédrale a été ouverte l'après-midi. Les fidèles ont dû attendre leur tour pour y entrer, le nombre de présents admis étant très restreint. Et enfin, le 24 mai, une semaine avant la Pentecôte, nous avons pu assister, masqués et espacés, à la messe. À la cathédrale, nous avons eu une autorisation pour 270 places. dans les églises rurales, les prêtres ont célébré également et les paroissiens se sont mobilisés pour assurer le bon ordre des cérémonies. La vie a repris son cours. Nous avons été à nouveau harcelés par les coups de fil pour nous proposer une isolation à 1 euro ou pour réduire notre facture d'électricité. Nous avons été ahuris de voir des masques ou des gants qui traînaient dans les rues. Progressivement, les magasins ont ouvert leurs portes. Les restaurants ont pu servir les clients en terrasse. Nous serons moins nombreux à aller en pèlerinage à Lourdes fin août, mais nous prierons pour ceux qui resteront à la maison. Quelles leçons allons-nous retenir de cette période ? L'avenir nous le dira. Saurons-nous être solidaires de notre économie locale pour éviter la faillite des commerçants et des artisans ? Saurons-nous garder des liens avec ceux avec qui nous avons intensifié des relations pendant toute cette période ? Saurons-nous garder les nouvelles habitudes que nous avons prises dans notre vie spirituelle quand, à nouveau, nos agendas seront surchargés ? J'ai entendu un jour à la radio, pendant le confinement, un journaliste interroger Bernard Pivot. « Quelle est la première chose que vous aimeriez faire quand nous serons sortis du confinement ?» Réponse de Bernard Pivot. « Rejoindre la femme que j'aime. » Bonne question. Et je me suis dit, « Et toi, Claire, si on te posait cette question, qu'est-ce que tu répondrais ?» La réponse n'a pas tardé à me venir à l'esprit. Aller à la messe et pouvoir enfin communier. Et en deuxième, me rendre au cimetière sur la tombe de mon fils et de mon mari. Pour le cimetière, ce fut possible dès le 11 mai. Pour la messe, il fallut attendre un peu plus le 24 mai. Alors, vivons dans l'espérance face à cette crise sans précédent et continuons à prendre soin des autres. À demain.